Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse et divine consolation. Le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Du Père, du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous avançons dans la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, dans le traité sur les lois. Sur le polycopier, nous en sommes à la page 73, à la fin de la page, de paragraphe avant la fin. Donc, je vais aller un peu plus vite pour cette partie. Donc, ce sont des textes de saint Thomas que j'ai pris dans la somme, qui ne sont pas forcément unis les uns aux autres, parce qu'ils sont pris à différents endroits. Donc, je vais essayer d'expliquer rapidement certaines choses qui sont importantes. Donc, rappelez-vous la règle générale que j'ai déjà expliquée, que derrière le sens historique évident de la Bible, du texte sacré, il y a un autre sens qui était très utilisé par les pères de l'Église, à savoir le sens spirituel, soit le sens allégorique, soit le sens tropologique ou moral, soit le sens anagogique. J'ai déjà expliqué tout ça. Tous ces détails que l'on voit dans la vie des Hébreux, dans les règles que Dieu avait données à Moïse et aux patriarches hébreux, qui semblent un peu surannés, un peu superficiels à certains côtés, on dirait qu'il y a trop de choses, trop de détails, on peut se poser la question, mais à quoi sert tout ça? En fait, ça avait une raison très, très simple. La restitution était voulue par Dieu pour protéger le peuple juif de la mauvaise influence des païens qui étaient autour d'eux. Quand ils arrivaient dans des nouveaux endroits, très souvent, ils devaient se battre contre les païens. Et le bon Dieu voulait absolument protéger les juifs de l'influence païenne, surtout en leur interdisant, par exemple, d'épouser des femmes païennes. Il voulait aussi que tous ces détails vestimentaires, ces détails alimentaires, ces détails dans la construction du temple, par exemple, dans le placement de l'arche, etc., eh bien, protègent le peuple choisi, le peuple élu de l'époque. Les Juifs sont le peuple élu de l'Ancien Testament, même s'ils ne le sont plus actuellement. Eh bien, pour empêcher la contamination par les païens. Malheureusement, ce n'est pas toujours suffi. Dans bien des cas, on voit justement que le peuple hébreu se laisse contaminer par les mauvais exemples des païens. Et donc il y avait des tas de règles, par exemple pour l'habit, pour la consommation des aliments, etc. Alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi le bon Dieu avait mis tant de prohibitions dans le domaine animal, mais il n'en avait fait aucune dans le domaine végétal, donc en ce qui concerne les végétaux. Donc en bas de la page 73 sur le polycopier. J'explique rapidement avec saint Thomas. Il dit que la consommation des produits du sol, donc les produits de la terre, les produits végétaux, dénote une certaine simplicité de vie, tandis que l'alimentation carnée marque un certain raffinement ou en quelques recherches. Alors que la terre produit spontanément les végétaux, ou du moins qu'on peut les lui faire produire en abondance sans grand effort, il faut beaucoup de travail pour l'élevage des animaux ou simplement pour leur capture. Aussi, le Seigneur, voulant ramener son peuple à un mode de vie plus simple, multiplia les prohibitions dans le domaine animal, mais n'en fait aucune en ce qui concerne les végétaux. Ce qui est dit là n'est pas forcément idiot. C'est vrai, bon, je ne suis pas du tout un fanatique de tous ces régimes modernes dont on parle en longueur de journée, ces régimes un peu trop déséquilibrés souvent. Bon, c'est sûr qu'il faut faire attention à ce qu'on mange, mais il y a quand même une idée qui est bonne et certain que trop de viande dans un régime alimentaire, va rendre les enfants, surtout qui mangent trop de viande, les rendre excités, les rendre énervés à longueur de journée. Et ça, ça vient certainement de la façon de nourrir des gens aujourd'hui. Donc, il faut essayer de revenir, dans toute la mesure du possible, à une certaine simplicité de vie, dit saint Thomas d'Aquin. Et il est évident que dans le monde moderne, dans toute la mesure du possible, ce n'est pas toujours possible, pour des raisons professionnelles. Mais dans toutes les mesures possibles, quitter les villes et essayer de vous installer dans les campagnes, où il est beaucoup plus facile d'élever ses enfants dans la foi catholique, dans la campagne, au milieu des vaches et des moutons, que dans les grandes villes, au milieu de toutes les horreurs qu'on y voit. Monseigneur Lefebvre avait fait un sermon fameux pour son jubilé sacerdotal, dans lequel justement il rappelait la nécessité de retourner à la terre dans toute la mesure du possible. Il est plus facile, beaucoup plus facile pour les hommes surtout, de rester en état de grâce dans la campagne que de rester en état de grâce dans les villes. Je vois, je suis un petit coin complètement perdu actuellement près d'Albi, et autour de moi j'ai les vaches et les champs, et je vois souvent les paysans, je parle souvent avec eux, on voit il y a une préservation chez ces braves paysans. Ils sont tous catholiques, même s'ils ne pratiquent pas en général. Et il y a une préservation de beaucoup de cochonneries du monde moderne, précisément parce qu'ils vivent en campagne. Bon, ils s'énervent avec leur tracteur, ça c'est sûr, ils boivent peut-être un coup de trop de temps en temps, mais il y a une certaine bonté naturelle qu'on ne voit pas autant dans les villes. Donc attention là aussi à avoir du bon sens, justement, pour garder nos enfants en état de grâce. De même, le bon Dieu avait voulu donner à son peuple élu des règles concernant aussi l'habillement. Ça, c'est très important, c'est des choses qui ont complètement disparu aujourd'hui et c'est bien dommage. L'habillement moderne, on pourrait parler pendant des heures sur l'habillement. L'habillement moderne pousse justement les hommes et les femmes à être égaux. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux, ils sont différents. Chacun a un rôle particulier dans la société. Malheur à l'homme qui veut jouer la femme et malheur à la femme qui veut jouer à l'homme. Et donc, il y a le monsieur qui a des cas spéciaux, une femme est obligée de remplacer un peu le mari parce que le mari a disparu, par exemple, ou l'inverse. Mais il faut en même temps absolument se rappeler la nécessité pour nous d'avoir cette vertu de pudeur qui protège la vertu de chasteté. Et ça, ça passe par l'habillement. C'est le dernier paragraphe de la page 73 dans le polycopié. Saint Thomas cite un texte de l'Ecclésiastique. L'habit nous renseigne sur celui qui le porte. Vous voyez très bien au Moyen-Âge où les personnes devaient s'habiller en fonction de leur rang. Et quelqu'un qui était dans une certaine classe sociale devait s'habiller en fonction de sa classe. Ça n'empêchait pas de faire pénitence aussi dans ce domaine-là, mais ils s'habillaient en fonction de leur classe. Le roi Saint-Louis, qui était pourtant un très grand roi, un très grand saint, mais il s'habillait en fonction de sa classe tout en ayant une grande simplicité de vie. Il avait décidé, par exemple, une des lois qu'il avait fait passer, c'est qu'il avait décidé, quand il voyait toutes les dames de la noblesse et de la cour qui se battaient pour des francs-freluches et des bijoux et toutes ces choses-là, il avait établi une loi en disant, à partir d'aujourd'hui, le diamant est réservé à la Sainte Vierge Marie. Donc les femmes de la noblesse, les femmes de la cour n'ont pas le droit de porter de diamant, c'est uniquement la Sainte Vierge Marie qui a ce droit. Voilà, je mettais les choses sur les points sur les i. Le Seigneur a donc voulu que son peuple, le peuple hébreu, se distingua des autres, non seulement par la marque charnelle de la circoncision pour les hommes, mais encore par un caractère distinctif dans le vêtement. Il fut donc interdit de porter des vêtements, tissus mélangés de laine, de lin, de revêtir l'habit de l'autre sexe. Par là, on combattait aussi la luxure, dit saint Thomas. En même temps que le caprice des combinaisons vestimentaires, on excluait tout dérèglement dans les rapports charnels. On sait d'ailleurs que le pervers attise le désir et donne lieu à la licence. Donc, attention, je pense que c'est important de comprendre ces choses-là, et surtout aujourd'hui, pour aider nos enfants à rester en état de grâce, on va les aider à s'habiller correctement et avec dignité. Il y a deux choses qui me frappent dans la façon de s'habiller des jeunes modernes. Premièrement, il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes, ils sont tous habillés pareil. Deuxièmement, plus c'est laid, plus ils aiment. La beauté disparaît. On voit aussi très bien, il y a beaucoup d'autres choses comme la peinture, les arts, la musique surtout. Eh bien, il faut que les catholiques réagissent. J'avais vu ça dans les pays de mission. Comment justement, dans les pays qui étaient encore qui n'a pas encore été contaminée, je dirais, par les erreurs du monde moderne en matière vestimentaire, etc., avec toutes les idées folles d'égalité entre hommes et femmes. Comment ces femmes, qui étaient pourtant très pauvres dans les milieux de mission, arrivaient à avoir cette extraordinaire dignité, on appelle ça dans le sud du Mexique encore. Elles avaient ces habits bariolés de couleurs spéciales, et chaque couleur avait un sens particulier. Et une femme mariée ne s'habillait pas de la même façon qu'une femme, une jeune fille non mariée. Une femme enceinte avait droit à certains signes particuliers, caractéristiques sur ses vêtements pour qu'elle soit reconnue en tant que telle, etc. Donc attention, attention à cela. Donc saint Thomas donne quelques exemples en haut de la page 74 sur les pédicopiers. Au sens figuratif, avec le vêtement tissé de lin et de laine, il est interdit de marier la simplicité de l'innocence que représente la laine avec les roueries de la malice signifiée par le lin. Et là, il y a une phrase de saint Thomas qui est magnifique. D'autre part, la femme ne doit pas s'arroger l'enseignement ou d'autres fonctions qui reviennent à l'homme, ni l'homme ne doit se laisser aller à des mœurs efféminées. Comment cette phrase devait être, combien cette phrase devrait être méditée aujourd'hui? L'homme ne doit pas se laisser à des mœurs efféminées. C'est une des marques de la société moderne, athée, laïque, qui nous entoure. Malheureusement, c'est l'efféminisation de l'homme. Les hommes sont en train de perdre complètement leur virilité. Et c'est ça qui fait que beaucoup de femmes qui, malheureusement, n'ont pas grand-chose dans la cervelle, malheureusement, dans ce cas-là, et qui sont attirées par l'islam, parce qu'elles voient une certaine force dans l'homme islamique, et du coup, elles sont attirées par cela. Elles ne se rendent pas compte que l'islam est une civilisation de l'enfer, une religion, une fausse religion, et pas une véritable religion, comme la religion catholique. Alors, il faut, vous voyez, toutes ces règles qui semblent un peu spécial, quand même un peu exagéré pour les juifs, bon, ont pour but de protéger les juifs de la contamination avec les gentils. Et encore une fois, on le voit très bien comment, au temps des Maccabées par exemple, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, au temps des Maccabées c'était la même chose, donc les juifs étaient tentés de prendre les habitudes de vie et les coutumes de vie des païens. Et Dieu a dû réagir fortement pour préserver justement cette lignée des Juifs qui devait donner le fils de David, avec un grand F, ce fils de David qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ces protections liturgiques, ces protections en matière d'habillement, en matière de mœurs, justement protéger surtout l'intégralité dogmatique, l'intégralité théologique de la religion juive, pour qu'elle ne soit pas contaminée par les fausses religions qui les entouraient de partout. Partout autour d'eux, ils voyaient les faux cultes des païens, des horreurs. Et notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu voulait absolument que son peuple soit préservé de ces choses-là. Donc il y a quelques notes intéressantes ici dans saint Thomas d'Aquin, donc deuxième paragraphe de la page 74 sur le polycopier. Donc, voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. Il y a dans l'homme une double affectivité, l'une selon la raison et l'autre selon la passion sensible. Alors, soit on est sous contrôle de l'intelligence, soit on est sous contrôle des sens, du cœur. Quand on nous dit « tu ne sèmeras pas une autre semence dans ta vie », encore un autre précepte qui avait été donné par notre Seigneur, il faut comprendre spirituellement que nulle doctrine étrangère ne doit être semée dans l'Église vigne des âmes. Pareillement, le champ qu'est l'Église ne veut pas être ensemencé de graines différentes, c'est-à-dire de la doctrine catholique et de la doctrine hérétique. C'est toutes ces paraboles qu'on voit dans l'Évangile, de la zizanie qui est semée dans le champ, de la mauvaise graine qui est semée dans le champ, qui est mélangée au bon champ. Eh bien, le maître du champ demande donc à ses serviteurs d'attendre, au moment de la moisson, de faire une séparation entre le bon grain qui va être mis à part et conservé dans les greniers, et puis la mauvaise herbe qui va être brûlée. Eh bien, cette mauvaise herbe représente la doctrine hérétique. Souvent, au début, on n'arrive pas à voir les différences. Quand l'herbe pousse, quand la mauvaise herbe pousse, quand l'herbe bonne pousse, on n'arrive pas à savoir quelle est la mauvaise herbe, quelle est la bonne herbe. Eh bien, c'est l'explication, justement, c'est le danger de l'hérésie. Souvent, au début, on ne voit pas trop les différences. On en est un peu impressionné par certaines choses. C'est au bout d'un certain temps qu'on se rend compte que la personne qui est devant nous a des théories, a des idées qui sont complètement hérétiques. Donc, la purification du péché n'a jamais pu se faire que par le Christ, parce qu'il est celui qui enlève le péché du monde. Donc il fallait donc protéger impérativement le peuple élu de l'époque, le peuple hébreu, le peuple juif, de la contamination par les hérétiques. Et ce qui était vrai au temps des Hébreux est toujours aussi vrai aujourd'hui, hein, faut pas se faire d'illusions. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons aussi à protéger nos enfants de la contamination par les doctrines étrangères. Par les doctrines étrangères, par les fausses religions qui pullulent actuellement. Hein, combien de jeunes se sont fait avoir, par exemple, par une certaine forme d'ésotérisme, des religions orientales qui attirent un peu par leur mysticisme. Il faut bien comprendre que c'est un faux mysticisme. Et donc il faut connaître son catéchisme, utiliser les sacrements pour se protéger et empêcher notre âme d'être contaminée par les idées des fausses religions. Et donc c'est ces graines qui sont différentes, qui poussent ensemble dans le champ, représentent la mélange qu'il y a dans le monde moderne entre la véritable religion et puis les fausses religions. Le mystère de l'incarnation, dit saint Thomas, le mystère de la passion du Christ n'était pas encore effectivement réalisé, on est dans l'Ancien Testament encore, attention. Et les cérémonies de la loi ancienne ne pouvaient pas posséder réellement en elles-mêmes la vertu qui découle du Christ incarné et crucifié comme contiennent les sacrements de la loi nouvelle. Il n'y avait pas encore de sacrements au sens propre dans l'Ancien Testament. Il y avait des purifications, il y avait toute une série de choses comme cela, mais qui étaient des sacrements au sens large, pas au sens strict. Aussi, ces sacrements de la loi ancienne ne pouvaient-ils pas purifier du péché ? Toutefois, dès le temps de la loi, les âmes croyantes pouvaient par la foi s'unir au Christ incarné et crucifié. Et ainsi, elles étaient justifiées en vertu de la foi au Christ qu'elles professaient de quelque manière en observant les cérémonies qui figuraient le Christ. Donc il fallait protéger donc les âmes des fidèles de l'époque justement pour les empêcher cette contamination par les rites païens. Le culte extérieur donc doit s'adapter au culte intérieur. Pour protéger l'intérieur de l'âme du peuple juif, il fallait des rites extérieurs qui les protégeaient des rites extérieurs païens. Donc le culte extérieur doit s'adapter au culte intérieur, fait de foi, d'espérance et de charité, car les rites païens étaient réputés comme absolument illicites et de tout temps condamnés par Dieu, tandis que le rite légal, ayant été institué par Dieu pour figurer le Christ, trouvait sa fin en ce sens que la passion du Christ s'accomplissait. Donc les rites liturgiques de l'Ancien Testament prédisposaient en quelque sorte les âmes à regarder entre Seigneur Jésus-Christ, à voir entre Seigneur Jésus-Christ qui n'était pas encore arrivé, mais qui un jour arriverait. Donc les Juifs vivaient à l'époque dans l'attente constante du Messie qui un jour arriverait, et tous les prophètes justement annonçaient cette arrivée du Messie. Il y a beaucoup beaucoup de textes dans l'Ancien Testament justement qui annonçaient cette arrivée, et donc tous les textes prophétiques de l'Ancien Testament, justement, aider les Juifs à ne pas se laisser contaminer par les peuples païens qui les entouraient. Il y a beaucoup, beaucoup de textes, par exemple chez le roi David. Hein. Le roi David, il y a beaucoup de choses qui sont annoncées, par exemple, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ est déjà très bien annoncée dans le psaume 21, hein, quand il est dit « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Ils ont fait jeter un sort sur mes vêtements. Hein. Ils lui ont donné du vinaigre à boire. Eh bien, oui, toutes ces phrases, justement, annoncent déjà le Messie. Hein. Dans Isaïe aussi, vous avez beaucoup de textes qui annoncent que notre Messie va convertir les nations, qu'il sera né d'une vierge. Dans Isaïe, chapitre 7, verset 14. Que l'enfant Dieu va aller être adoré par les rois, qu'il allait régner sur la terre entière. Hein. Donc vous avez aussi ces petits prophètes, beaucoup d'annonces, chez Osée, chez Michée, Joël, etc. Vous avez aussi des annonces justement du Messie, et tout, encore une fois, toutes les ordres, les ordonnances qui avaient été données par le bon Dieu, justement, aider avec se compléter avec les prophéties pour obliger les Juifs à faire attention dans ce long temps d'attente avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? Le prophète Michée, par exemple, avait bien dit que le Messie naîtrait à Bethléem et qu'il serait à la fois Dieu et homme. Michée chapitre 5. Hein? Vous avez aussi des textes des grands prophètes comme Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Hein? Daniel avait annoncé le temps de la nativité, comme quoi il allait falloir attendre 490 ans avant l'arrivée de la Nouvelle Jérusalem, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Ézéchiel, pourtant 580 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ, avait bien annoncé que le Messie serait de la race de David, qu'il allait recevoir la couronne de la maison royale de David. Donc vous avez toutes ces prophéties qui ont aidé les peuples juifs à conserver la foi, mais ce n'était pas suffisant. Donc le bon Dieu a voulu rajouter toute une série de régulations concernant les aliments, concernant les relations avec dans les familles, concernant la façon de s'habiller, concernant les relations avec les païens, etc., pour se protéger. Et le pire des péchés pour les juifs, à l'époque, c'était le péché de l'idolâtrie, l'adoration des faux dieux. On voit très bien dans l'Ancien Testament, quand dès que les juifs tombaient dans l'idolâtrie, les colères par exemple de Moïse, et puis les colères de Dieu, Dieu lui-même qui condamne à mort, à l'extermination, justement, tous les gens qui tombent dans l'idolâtrie dans bien des cas. Donc attention. Attention à ces choses-là. Alors, tous ces rites, si vous voulez, étaient donnés pour protéger la foi au Christ à venir. Foi au Christ qui n'était pas encore là, mais qui un jour allait arriver. Donc le culte extérieur doit s'adapter au culte intérieur, fait de foi, d'espérance et de charité. Car les rites païens étaient répudiés comme absolument illicites et de tout temps condamnés par Dieu. Tandis que le rite légal, ayant été institué par Dieu pour former et figurer le Christ, trouvait sa fin en ce sens que la passion du Christ s'accomplissait. Et toutes les marques de respect, par exemple, à l'égard des prêtres de l'Ancien Testament, à l'égard du tabernacle de l'Ancien Testament, du temple construit par Salomon, eh bien, toutes ces marques de respect annoncer, si vous voulez, les marques de respect que le peuple chrétien de notre Seigneur Jésus-Christ, du temps de notre Seigneur, et après, va devoir marquer justement pour augmenter leur foi en la présence réelle, par exemple dans le tabernacle. Quand on voit déjà les marques de respect qui devaient être pratiquées par rapport au tabernacle de l'Ancien Testament qui ne contenait que de la manne, la Vierge d'Aaron et les pierres de la loi, mais on se dit que les marques de respect que le bon Dieu nous demande pour dans le Nouveau Testament, face à la présence réelle dans le tabernacle de l'Église, ces marques de respect sont presque insignifiantes. Quand on compare ça avec les marques de respect que le peuple juif devait utiliser par rapport au tabernacle qui ne comprenait pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais simplement son image. Alors, il y a d'autres textes ici que je vous donne rapidement, au milieu de la page 74, donc là sur le polycopier. Les préceptes judiciaires ne furent en vigueur que pour un temps. Et ils ont été vidés de leur sens à l'avènement du Christ, mais en un autre sens que les préceptes cérémoniels. Donc évidemment, avec l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, toutes ces anciennes obligations de l'Ancien Testament vont devenir caduques. Les préceptes cérémoniaires furent abrogés de telle sorte que non seulement ils sont morts, mais qu'ils tuent ceux qui les observent, depuis le Christ et surtout depuis la diffusion de l'Évangile. Donc ce serait un péché grave pour un catholique de suivre aujourd'hui les rites disciplinaires et liturgiques de l'Ancien Testament. Ces rites étaient faits, en quelque sorte, dans l'attente d'un Christ qui n'était pas encore là. Or, le Christ est maintenant venu. Et donc, il ne faut plus regarder... Pas plus regarder vers les Juifs de l'Ancien Testament, il faut regarder au contraire vers le ciel où mon Dieu nous attend. C'est l'intention d'observer les préceptes judiciaires comme une obligation légale qui porterait atteinte à la vérité de la foi, car on signifierait ainsi que le statut du peuple ancien dure toujours et que le Christ n'est pas encore venu. Et donc, toutes les abominations proférée par Bergoglio à Rome sur justement le fait que les juifs sont toujours le peuple élu, eh bien montre qu'il a rien compris, qu'il a complètement perdu la foi dans ce domaine, et que pour lui, le fait d'attendre que notre Seigneur Jésus-Christ arrive, et c'est la même chose que d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ déjà arrivé. Donc tous ces préceptes judiciaires faisaient régner dans le peuple la justice et l'équité, mais selon les exigences de sa condition d'alors. Celle-ci a dû changer après le Christ, au point qu'il n'y a plus dans le Christ à distinguer les Juifs des païens comme on le faisait auparavant. Il n'y a donc plus qu'un seul moyen de se sauver aujourd'hui, c'est par l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir l'Église catholique. On ne peut pas se sauver par le judaïsme. Vous voyez, c'est absolument faux de parler avec respect, comme le font les gens modernes, des grandes religions monothéistes. Alors on dit que le protestantisme, le christianisme en général, la religion islamique musulmane et les juifs sont les trois grandes religions n'adorant qu'un seul dieu monothéiste, et donc il faut avoir le même respect pour les trois. C'est totalement faux, parce qu'il n'y a qu'un seul dieu. Et le dieu que les juifs adorent aujourd'hui n'est pas le vrai dieu, puisqu'ils attendent que notre Seigneur Jésus-Christ arrive. Donc le Dieu qui vient sur l'autel des catholiques tous les jours pour la Sainte Messe est un Dieu qui est rejeté, dénigré, refusé par les Juifs, malheureusement, parce que justement, le Dieu qu'ils adorent aujourd'hui n'est pas le vrai Dieu, puisqu'il refuse notre Seigneur Jésus-Christ. Quant de dire aux musulmans, que les musulmans sont une religion qui adore le même Dieu que nous, c'est une aberration. Puisque le Dieu des musulmans n'est pas un Dieu à trois personnes. Alors, le Dieu catholique, le vrai Dieu, est un Dieu à trois personnes. Allez dire à un musulman, vous croyez à un Dieu à trois personnes, allez voir ce qui va vous arriver. Ils vont vite vous réduire votre taille d'une trentaine de centimètres. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Alors, on continue un petit peu. J'accélère un peu le rythme, parce que là, ce sont des choses qui sont quand même un petit peu moins importantes sur certains domaines. Et donc, je vais avancer un petit peu dans la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Donc, on est à la page 74, en bas de la page. On attaque maintenant la question 105 de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin sur la raison des préceptes judiciaires. Donc, je vais encore une fois couvrir cela un peu rapidement. Donc, on va attaquer d'abord l'article 1, plusieurs articles importants dans cette question. Donc, je vais résumer un petit peu tout ça. Donc, la question qui se pose est la suivante. Les dispositions de la loi ancienne, Ancien Testament, en ce qui concerne les gouvernants, étaient-elles satisfaisantes? Donc, il y a des notes ici données par saint Thomas d'Aquin qui sont très importantes justement pour arriver à voir un peu clair en matière politique. Voilà ce qu'il dit. Il parle de la royauté en disant bien que c'est la meilleure forme du gouvernement, et qu'au contraire, la tyrannie en est la pire déformation. Donc la beauté d'un établissement politique tient à une bonne organisation des pouvoirs, et la loi assurera donc au peuple cette bonne organisation. Donc en soi, je l'ai déjà dit souvent, l'Église n'a jamais obligé un pays déterminé à avoir un système politique déterminé. Il y a une liberté qui est donnée à chaque pays en fonction de son histoire, en fonction des circonstances qui sont dans son histoire. Cependant, l'Église ancienne aussi, on va voir avec le texte de saint Thomas, que la royauté est un système politique qui exige la sainteté, la sainteté de vie d'une seule personne en tant que telle, à savoir le roi. L'aristocratie, le pouvoir d'un certain groupe, le pouvoir des meilleurs, demande la sainteté de vie à un groupe de personnes, à ceux qui dirigent. C'est-à-dire que la démocratie va demander la sainteté à tous les membres du peuple. Bon, alors c'est encore possible d'arriver à avoir des rois saints, S-A-I-N-T-S, donc on voit effectivement dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire du monde, qu'il y a eu bien des cas avec des rois qui ont été canonisés par l'Église. Hein. Pensez à Saint-Louis, roi de France, son cousin Saint-Ferdinand en Espagne, Saint-Henri d'Allemagne, Saint-Édouard en Angleterre, etc. Donc il y a eu des saints rois partout. Par contre, on ne peut pas trouver un peuple où tous les gens sont canonisables. Ce n'est pas possible. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, saint Thomas va expliquer que sans doute le meilleur gouvernement, même si en soi la royauté est la meilleure forme de gouvernement, le meilleur gouvernement, va-t-il expliquer, est un gouvernement qui il va accepter un peu de tout, c'est-à-dire une partie avec un roi, une partie du gouvernement avec une aristocratie, une partie avec le principe démocratique. Donc il va expliquer tout ça. En bas de la page 74, sur le papier. Si la royauté, donc, j'ai déjà expliqué, deux points, donc, sont à observer dans la bonne organisation du gouvernement d'une cité ou d'une nation. Premièrement, que tout le monde participe plus ou moins au gouvernement, car il y a là une garantie de paix civile et tous chérissent et soutiennent un tel état de choses. Donc, en tant que tel, il est bon que lorsque les gens sont devenus des adultes responsables, qu'ils aient une certaine participation au gouvernement. Et on voit très bien au Moyen-Âge, où surtout dans les villes, dans les villages, les adultes pouvaient participer au gouvernement. Mais pas tous. Pas tous. Dans bien des cas, ne participer aux fonctions gouvernementales, ne participer aux débats parlementaires, aux débats politiques, même que ceux qui payaient l'impôt. Dans bien des cas, ne pouvaient voter au Moyen-Âge que ceux qui payaient l'impôt. Ceux qui ne payaient pas l'impôt ne votaient pas. Donc on voit la stupidité du système politique français, entre autres, où un jeune gamin de 18 ans qui a encore le lait de sa mère au bout du nez et qui il a le même poids politique avec sa voix qu'un monsieur qui a 40 ans d'expérience dans une entreprise. Enfin, c'est le monde à l'envers. Donc voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. L'autre point important concerne la forme du régime ou de l'organisation des pouvoirs. On sait qu'il y en a plusieurs, distingués par Aristote. Aristote a déjà expliqué ces choses très bien. Mais les plus remarquables sont la royauté, la domination d'un seul selon la vertu, l'aristocratie, c'est-à-dire la domination des meilleurs ou la domination d'un petit nombre selon la vertu. Donc, vous voyez, cette phrase, elle, à mon avis, est très importante. La royauté, c'est la domination d'un seul selon la vertu. Donc, un roi qui n'est pas vertueux, dans saint Thomas d'Aquin, n'est plus digne d'être roi. Un roi qui perd la foi catholique n'est plus digne d'exercer la fonction régalienne, la fonction de roi. Donc, encore une fois, la politique, il ne faut pas séparer la politique de la vertu. Strictement parlant, dans l'esprit de saint Thomas d'Aquin, dans l'esprit de l'Église catholique, n'ont le droit de participer directement à la politique de l'État que ceux, les adultes, qui ont suffisamment de vertu pour cela. Des gens non vertueux n'ont pas le droit de participer à la vie politique du pays parce que justement, la vie politique du pays a pour but justement d'aider le pays à monter vers le ciel. Hein? Il ne faut pas séparer encore une fois l'Église et l'État. L'Église et l'État doivent être unis comme le corps et l'âme sont unis. C'est des choses qui ont beaucoup de mal à être comprises aujourd'hui par les modernes à cause de la contamination des idées révolutionnaires. Mais l'Église et l'État doivent être unis. Il n'y a pratiquement plus de pays qui ont l'union de l'Église et l'État, et sauf malheureusement l'islam. Dans l'islam, on voit très bien, il y a une union totale de l'Église et de l'État. Dans le protestantisme, c'est bien souvent le cas. Prenez le cas du Danemark, prenez le cas de l'Angleterre, prenez le cas de tous les pays scandinaves, le protestantisme est religion d'État. Alors, c'est malheureux à dire, on voit Bergoglio qui accepte que le protestantisme soit religion d'État dans les pays scandinaves, il accepte que l'islam soit religion d'État dans tous les pays musulmans, mais il refuse catégoriquement que le catholicisme soit religion d'État dans les pays catholiques. C'est vraiment le monde à l'envers. Hein. Donc, voilà donc, dit saint Thomas, on est en page 75 là, sur le polycopier. Voici ce que dit saint Thomas. L'organisation la meilleure pour le gouvernement d'une cité ou d'un royaume est la suivante. À la tête est placé en raison de sa vertu un chef unique ayant autorité sur tous. Ça, c'est la royauté. Puis viennent un certain nombre de chefs subalternes qualifiés pour leur vertu. Ça, c'est l'aristocratie. Et cependant, la multitude n'est pas étrangère au pouvoir ainsi défini, tous ayant la possibilité d'être élus et tous étant d'autre part électeurs. Ça, c'est la démocratie. Oui. Donc il y a une alliance, si vous voulez, de tout. En bas, la démocratie, au milieu, l'aristocratie, et en haut, la monarchie. Et ça, c'est un texte très important. Donc faites attention, on entend souvent les catholiques de tradition dire des bêtises sur le sujet en disant que saint Thomas d'Aquin a toujours dit que le seul régime politique acceptable était la monarchie. C'est pas ce qu'il dit. Il dit expressément, c'est le deuxième paragraphe de la page 75 dans le polycopier, que le régime parfait est un mélange. Heureusement mélangé de monarchie, d'aristocratie et de démocratie. Tel est le régime parfait, heureusement mélangé de monarchie par la prééminence d'un seul, le roi, d'aristocratie par la multitude des chefs vertueusement qualifiés, ce sont la noblesse, de démocratie enfin, ou de pouvoir populaire du fait que de simples citoyens peuvent être choisis comme chefs et que le choix des chefs appartient au peuple. L'autorité vient de Dieu, mais la manifestation de cette autorité va être... Si vous voulez, le peuple a, d'un certain côté, le droit de manifester son qui va exercer cette autorité, évidemment dans la mesure de ses compétences. C'est pour ça qu'on peut parfaitement, moi ça ne me choquerait pas du tout, de voir un système démocratique, par exemple, dans un village, pour l'élection du maire du village, aux élections communales. Pourquoi ? Parce que dans un village, tout le monde se connaît, tout le monde connaît les différentes personnes qui se présentent, les différentes listes électorales qui se présentent dans le village. Et là, bon, ben, quand on vote pour quelqu'un, on connaît la personne. Mais déjà, dès que vous montez au niveau, par exemple, des élections pour nommer les députés d'une circonscription, les députés d'une ville, dans une ville, les gens déjà ne se connaissent plus. Surtout que la plupart du temps, les députés ne viennent même pas de la ville. Donc personne ne les connaît. Alors dans ce cas-là, je ne vois pas en quoi on a se mêlé de savoir quel est le meilleur député. On ne peut plus répondre à cette question. Pourquoi ? Parce qu'on ne connaît pas les personnes. Et... Donc il faut faire très attention. Je répète cette phrase qui me semble très importante et qui résume toute la politique de saint Thomas d'Aquin. Le régime parfait, heureusement mélangé, de monarchie par la prééminence d'un seul, d'aristocratie par la multiplicité des chefs vertueusement qualifiés, de démocratie enfin, ou de pouvoir populaire du fait que de simples citoyens peuvent être choisis comme chefs et que le choix des chefs appartient au peuple. On le voit très bien dans l'Église. Dans l'Église aussi, il y a ce mélange des pouvoirs. Le bon Dieu a créé l'Église catholique comme étant une Église de pouvoir absolu, monarchique. Donc, en haut, le pape, en dessous, les évêques. Mais il y a déjà, dans certaines élections, par exemple, pour élire le chef d'un chapitre, les chanoines d'un chapitre vont exercer leur droit démocratique pour élire le chef, leur chef dans leur groupe religieux. Pourquoi ? Parce qu'ils se connaissent entre eux, là ils peuvent le faire. D'accord ? Alors, on le voit très bien, même avec notre Seigneur Jésus-Christ d'ailleurs. Notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va faire ? Si vous voulez, dans la fondation de l'Église catholique, on voit la même chose, c'est-à-dire les principes même d'une société politique organisée correctement. En haut, Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Bon, après. L'aristocratie, c'est quoi l'aristocratie? Il y a deux formes d'aristocratie. Première aristocratie, ce sera les apôtres. Deuxième aristocratie, sous les apôtres, les disciples. On dit que les apôtres sont aux évêques, ce que les disciples sont. Les disciples sont aux prêtres, c'est vrai. Donc ça, c'est l'autorité qui est sous notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord les apôtres qui reçoivent une certaine formation qu'on ne reçoit pas les autres. Les disciples qui sont aussi sortis du groupe, sortis si vous voulez de la société pour être formés de façon spéciale par notre Seigneur Jésus-Christ, et puis après le peuple. Et dans bien des cas, on voit même dans les moments très chrétiens de l'histoire comment le peuple lui-même venait demander comme évêque parfois l'un des leurs. Regardez par exemple l'élection miraculeuse de saint Ambroise comme archevêque évêque de Milan. Eh bien, c'est le peuple qui disputait, ils n'avaient pas à se décider entre eux pour savoir quel serait le prochain évêque. À ce moment-là, c'est le peuple qui élisait les évêques. Eh bien, il y a un enfant qui a commencé à crier, poussé par le Saint-Esprit, Ambroise évêque, et toute l'assemblée a répété Ambroise évêque, et c'est comme ça qu'Ambroise, qui n'était qu'un simple catéchumène à l'époque, si mes souvenirs sont exacts, a été nommé évêque de Milan. Et Dieu sait s'il a fait un travail extraordinaire en tant qu'évêque de Milan. Donc voilà comment fut le régime institué par la loi divine, et les principes politiques d'aujourd'hui devraient s'inspirer justement des principes voulus par le bon Dieu dans le peuple élu. Donc, en effet, Moïse et ses successeurs gouvernaient le peuple, qui a été le chef unique et universel, ce qui est une caractéristique de la royauté. Donc, Moïse, on le voit très bien, et ensuite tous ceux qui lui ont succédé, Moïse avait une autorité énorme sur le peuple hébreu. Ensuite, il y avait les anciens, 72 anciens qui correspondent aux disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. 72 anciens élus en raison de leur mérite. Je prie dans vos tribus, dit Moïse, des hommes sages et considérés, et je les établis comme chefs. Ça, c'est l'élément d'aristocratie. Et enfin, la démocratie intervient aussi. Elle s'affermit en, elle s'affirmait en ce que les chefs étaient pris dans l'ensemble du peuple. Donc, les anciens, les disciples, chez notre Seigneur Jésus-Christ, provenaient du peuple, venaient du peuple. Les apôtres aussi d'ailleurs. Ce Seigneur Jésus-Christ n'est pas allé chercher à son époque des polytechniciens pour en faire des apôtres. Il est allé chercher des gens tout simples. Saint-Pierre était un pêcheur. Hein, Saint-Jacques et Saint-Jean. Donc c'était des gens tout simples. Mais le bon Dieu va les prendre dans la masse, si vous voulez, populaire, et va les tirer vers le haut, les séparer de la masse, et leur donner un rôle spécial, parce que justement, c'est la création de l'aristocratie religieuse. Donc on voit très bien, encore une fois, que dans l'esprit de saint Thomas d'Aquin, le meilleur gouvernement, c'est un gouvernement qui associe les qualités des trois. Donc la monarchie en haut, au milieu de l'aristocratie, pouvoir des meilleurs, et puis la démocratie en bas. Bon, et chacun, chaque pouvoir, chaque parti, si vous voulez, va corriger les erreurs éventuelles des autres. Le fait que l'aristocratie a son mot à dire face au roi va empêcher souvent le roi d'agir de façon trop tyrannique. Au contraire, le rôle du roi, le roi va être là pour justement limiter le pouvoir de l'aristocratie qui parfois va tous devenir des petits rois. Et enfin, le peuple qui, dans lequel sont choisis les membres de l'aristocratie et de la royauté, si vous voulez, dans bien des cas, eh bien, le peuple, justement, avait aussi son mot à dire. Hein. Alors, quatrième paragraphe de la page 75, donc pour les copier, la royauté, encore une fois, c'est très important de saint Thomas, c'est pour ça que je l'ai mise en gras dans le texte. La royauté est la forme la meilleure de gouvernement, si elle reste saine. Mais elle dégénère facilement en tyrannie, à cause du pouvoir considérable qui est attribué au roi si celui qui détient tel pouvoir n'a pas une vertu parfaite. Il n'appartient qu'au vertueux de soutenir comme il faut les faveurs de la fortune. Or, la vertu parfaite est rare. Dieu sait si c'est exact, aujourd'hui surtout. Les Juifs étant particulièrement cruels et enclins à la rapacité, et c'est par ces vices surtout que les hommes versent dans la tyrannie. Donc la cruauté, l'avarice, la rapacité vont pousser, si vous voulez, les membres des rois, et puis parfois aussi les membres de l'aristocratie dans les choses illégales. C'est pourquoi le Seigneur ne leur assigna pas dès le début un roi revêtu de l'autorité souveraine, mais un juge et un gouverneur qui veillèrent sur eux. C'est plus tard, à la demande du peuple, et comme sous le coup de la colère, qu'on leur accorda un roi, disant clairement à Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont écarté, c'est moi, ne supportant plus que je règne sur eux. Le roi du peuple juif, c'était en fait Dieu lui-même. Dieu était l'autorité. Et les Hébreux, les Juifs, se sont révoltés contre cette autorité. On voulait avoir un roi humain, parce qu'ils ne se contentaient pas justement d'un roi divin. Donc attention à ces textes. Donc, je vous donne certains textes en répétant un peu ce que j'ai déjà dit, mais il faut répéter les choses pour que ça rentre. Donc, le gouvernement d'Israël se faisait remarquer par la beauté de son organisation. La meilleure constitution pour une nation, dit saint Thomas, donc est celle où un chef suprême gouverne selon la justice, assisté par des ministres subalternes, vertueux comme lui. Alors, le pouvoir appartient en réalité à tous les citoyens, tous peuvent y être élevés, tous ont le droit d'élection. Pour arriver à ce résultat, il faut un pouvoir mixte, qui se réunisse tout à la fois la royauté, où il n'y a qu'un chef, l'aristocratie, où il y en a plusieurs, et la démocratie, où tous les citoyens sont électeurs et éligibles. Évidemment, les citoyens adultes, les majeurs, et qui peuvent être élus. Moïse dirigeait la nation, qualité de chef unique, auquel tout obéissait. Voilà la royauté. On élisait 70 vieillards choisis par leur vertu, c'était l'élément aristocratique, et les chefs étaient pris dans tous les rangs du peuple, et là se trouvait le principe démocratique. D'où nous devons conclure que l'organisation du pouvoir des princes chez les Juifs était la plus parfaite qui se puisse concevoir. C'est Dieu lui-même qui avait voulu l'élément politique organisé de cette façon. Si l'élection du souverain n'était pas déterminée, il ne faut point s'en étonner. Pourquoi ? Parce que Dieu, voulant réserver le peuple juif, avec un soin tout spécial, se l'était réservé. C'est lui, Dieu lui-même, qui était le roi des Juifs. Attention. Nous lisons dans le Deutéronome, chapitre 17, verset 15, « Vous établirez roi celui que le Seigneur votre Dieu aura choisi. » Donc on voit très bien, par exemple, chez Josué, il fut investi du pouvoir par l'ordre de Dieu. Il en fut de même de tous les justes qui commandèrent après lui. Il est écrit de chacun d'eux, « Dieu suscita un sauveur à son peuple. » La royauté ne fut donc établie que plus tard. Elle est le meilleur des gouvernements quand elle ne se corrompt pas. On se recoupe notre phrase de saint Thomas d'Aquin qui disait bien que on pouvait accepter comme meilleur gouvernement la démocratie à condition qu'il n'y ait pas eu le péché originel. En gros, ça veut dire qu'on peut accepter la démocratie dans un pays à condition que tous les hommes qui constituent les bases de cette démocratie soient tous vertueux, ce qui n'est pas possible. Donc, puisqu'il n'est pas possible d'avoir une société entièrement vertueuse au niveau des citoyens, donc la démocratie pure dans un pays est un leurre, un rêve absolument complètement déconnecté de la réalité. Donc, par contre, la royauté est le meilleur des gouvernements parce qu'il est plus facile d'avoir une seule personne vertueuse que d'avoir un groupe vertueux et d'avoir une masse vertueuse. Donc, la royauté est le meilleur des gouvernements à condition qu'il ne soit pas corrompu. Il faut bien remarquer qu'il faut une vertu parfaite pour bien porter la bonne fortune et l'autorité. Ce n'est pas évident d'avoir une autorité politique énorme et en même temps de rester vertueux. Beaucoup de gens ont bien commencé, ont très mal fini dans ce domaine. Une telle vertu était très rare chez les Juifs, enclin à la cruauté et à l'avarice. Donc deux vices, d'où naît bientôt l'abus du pouvoir. Pour cette raison, Dieu ne leur donna pas un roi dès le commencement. D'accord ? On a déjà expliqué tout ça. Donc, quoi qu'il eût donc réglé d'avance, que Dieu ait réglé d'avance ce qui concerne la puissance royale, il n'en accorda l'exercice qu'à la demande du peuple, au moment de la révolte du peuple face au prophète Samuel. Alors, la loi que le bon Dieu avait donnée aux Juifs, donc, régler les relations entre les citoyens. La loi avait sagement réglé toutes ces sortes de rapports, elle avait établi aux portes des villes des juges, par exemple, et des magistrats, chez les Juifs, auxquels elle ordonnait de rendre la justice aux étrangers comme aux citoyens, sans distinction de personne. Défense aurait été faite d'accepter des présents, ils savaient d'avance les peines qu'ils devaient infliger aux divers délits. Tout était prévu par avance. Pour les péchés contre Dieu, par exemple, pour l'homicide, les enlèvements, les outrages envers les parents, l'adultère, l'inceste, c'était la peine de mort. Pour le vol, c'était les amendes. Pour la mutilation et le faux témoignage, la peine, c'était la peine du talion. Et pour les fautes moins graves, c'était simplement la flagellation. Donc toute une série de règles avait été instituées par Dieu, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails parce qu'on y passerait trop de temps, mais justement pour protéger l'organisation politique juive. Par exemple, pour sauvegarder mieux encore la propriété primitive, la loi obligeait les femmes qui avaient hérité à se marier dans leur propre tribu. Elles n'avaient pas le droit, elles n'avaient pas le droit de se marier en dehors de la tribu. Donc tout était prévu. Alors, il y a des choses intéressantes dans cette question 105. Par exemple, un petit détail mais qui est très important, surtout aujourd'hui, pour les temps qui courent. Prima secondé, question 105, article 3. Saint Thomas se pose une question très actuelle. Les préceptes concernant les étrangers étaient-ils convenables? Et donc, Saint Thomas va expliquer que les étrangers étaient généralement dans le peuple juif admis au culte de Dieu. D'ailleurs, on voit très bien, par exemple, au moment de la fête de la Pentecôte, parce que le Saint-Esprit descend sur Saint-Pierre et les apôtres, et bien comment il y avait dans la place, devant la maison, devant la maison où a eu lieu la Pentecôte, et bien il y avait des gens de toutes nations, qui n'étaient pas tous la même religion. Les étrangers étaient généralement admis au culte de Dieu, mais on ne leur permettait pas immédiatement de prendre part aux affaires publiques par crainte de danger pour l'État. Plusieurs ne pouvaient point se faire naturaliser, par exemple ceux qui avaient commis des hostilités. La loi, toutefois, n'en excluait aucun du culte de Dieu ni des choses qui tiennent au salut de l'âme. Donc ils avaient le droit de participer d'une certaine façon au culte de Dieu. Et Dieu, si vous voulez, avait mis son influence dans toutes les relations sociales, dans tous les préceptes de la vie domestique. Tout était convenable. Il y avait, par exemple, des lois qui avaient été faites pour les serviteurs, qui avaient été traitées avec humanité. Même les esclaves. Je sais si l'Église va devoir lutter contre l'esclavage, mais l'Église va mettre des siècles pour arriver à supprimer complètement l'esclavage, tellement c'était rentré dans les mœurs. Donc les esclaves rendus à la liberté, la septième année, ont porté leurs vêtements, des aliments pour le voyage. Donc l'esclave, la septième année, a retrouvé sa liberté. Les femmes devaient se marier dans leur propre tribu, j'ai déjà expliqué. Pour éloigner le danger des séductions, les hommes juifs ne pouvaient épouser aucune femme étrangère, à moins qu'elle ne renonçât à son culte idolâtrique pour adopter celui des Hébreux. Comme on devrait mettre en pratique des lois aussi sages aujourd'hui pour éviter bien des catastrophes. Alors, on avance encore un peu, donc en bas de la page 75. Dès le début, toutefois, Dieu, donc deuxième paragraphe avant la fin de la page 75 sur le polycopié, Dieu a posé quelques règles concernant la royauté. Et d'abord, la manière de désigner le roi, avec cette double clause, que dans le choix du roi, on aurait recours au jugement du Seigneur. Qu'on ne prendrait pas pour roi un étranger, parce que les rois de cette sorte ont coutume de ne s'attacher guère aux gens qui leur sont soumis, et par conséquent, de ne pas s'occuper d'eux. Et même lorsque les peuples hébreux ont exigé un roi humain, ils n'ont plus voulu du bon Dieu, le bon Dieu a quand même souvent un peu les meubles en déterminant quels seraient les rois une fois établis leur situation personnelle. Il a limité le nombre de leurs chars, de leurs chevaux, de leurs femmes, ainsi que l'étendue de leurs richesses. Car c'est par de telles convoitises que les princes sont amenés à verser dans la tyrannie et à s'écarter de la justice. Puis il fut réglé leur attitude à l'égard de Dieu toujours. Toujours ils auraient à lire et à méditer sa loi, remplie sans cesse de crainte et d'obéissance. Enfin, envers leur sujet, ils n'affecteraient pas un mépris superbe et se garderaient de les opprimer, ne s'écarteraient pas de la justice. Malheureusement, ça n'a pas toujours été gardé ainsi. C'est bien dommage. Donc, on voit comment le bon Dieu, si vous voulez, laisse une certaine liberté à son peuple, mais leur donne quand même les règles de conduite pour essayer de les protéger. Même l'accès sacerdotal, à l'époque, il n'y avait pas encore le sacerdoce, mais il y avait les Lévites, donc c'était une caste à part, une caste à part, un groupe à part, une tribu à part, et l'accès au sacerdoce était héréditaire. Cela pour qu'il soit davantage honoré, puisque n'importe quel homme du peuple pouvait devenir prêtre, ce qui tournait à l'honneur du culte divin. Passons à la page 76 sur le polycopier, dont je reprends certains textes de saint Thomas d'Aquin. En haut de la page 76, il y a une phrase un peu exigeante d'Aristote, donc 4 siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que disait Aristote, un païen. Ce qui mène à la ruine tant de cités et de royaumes, c'est surtout le fait que les héritages tombent aux mains des peuples, aux mains des femmes, pardon. Répète, ce qui mène à la ruine tant de cités et de royaumes, c'est surtout le fait que les héritages tombaient aux mains des femmes. Il ne faudrait pas que la Lycra entende des choses comme ça, parce qu'elle aurait placé Aristote dans un grand bûcher immédiatement. Et voici le sens mystique derrière. La génisse enlevée au troupeau représente la chair du Christ. Elle n'a pas porté le joug, car elle n'a point péché. Elle n'a pas divisé la terre par le socle de la charrue, tandis qu'elle ne s'est pas souillée d'aucune marque de rébellion. Si la génisse mourait dans un vallon en friche, c'est une série de lois que je vous donne comme exemple, si la génisse mourait dans un vallon en friche, cela signifiait le mépris dont fut entourée la mort du Christ, par laquelle tous les péchés sont lavés et le diable désigné comme auteur de l'homicide. Vous voyez, donc Dieu avait, si vous voulez, voulu, avait rajouté toute une série de lois qui sont parfois difficiles à comprendre aujourd'hui pour protéger justement l'héritage et empêcher la contamination par les païens. Et évidemment, si par les mariages, les femmes pouvaient perdre, pouvaient par le mariage rentrer, si vous voulez, dans une autre société, on pouvait à ce moment-là perdre une partie du territoire hébreu entre les mains de gens qui ne suivaient pas le vrai Dieu. C'est pour ça que le bon Dieu avait exigé justement qu'on ne se marie jamais en dehors de sa tribu pour protéger le bien du peuple hébreu. Chacun son travail. Bon, quand Aristote disait que la ruine des cités, c'était le fait que les héritages tombaient aux mains des femmes, ce qu'il veut dire par là, c'est que c'est pas leur travail, chacun a son boulot, chacun a son travail. Et si les hommes agissaient comme hommes, et si les femmes agissaient comme femmes, comme reines de la maison, et les hommes comme rois de la maison, les choses iraient bien. Donc d'autres règles, et là encore une fois, saint Thomas d'Aquin va aller chercher chez Aristote certaines lumières. Deuxième paragraphe de la page 67 dans le polycopier. C'est une règle chez certaines nations de réserver la qualité de citoyen à ceux dont l'aïeul, voire le trisaïeul, avait résidé dans la cité. Cela se comprend à cause des multiples inconvénients occasionnés par la participation prématurée des étrangers au maniement des affaires publiques. Car si avant d'être affirmés dans l'amour du peuple, ils entreprenaient quelque chose contre lui-ci, avant d'être affirmés dans l'amour du peuple, je répète. Cela se comprend à cause des multiples inconvénients occasionnés par la participation prématurée des étrangers au maniement des affaires publiques, si, avant d'être affermis dans l'amour du peuple, ils entreprenaient quelque chose contre lui. Donc il y avait un temps d'attente pour être sûr que les étrangers qui étaient naturalisés, justement, avaient pris l'esprit du pays. On devrait méditer sur ces règles pleines de sagesse aujourd'hui. C'est pourquoi, selon la disposition de la loi, donc saint Thomas va donner quelques exemples ici, certaines nations, plus ou moins liées avec les Juifs, comme les Égyptiens au milieu desquels ils étaient nés et avaient grandi, les Édomites, descendants d'Ésaü, le frère de Jacob, ils étaient accueillis dès la troisième génération dans la communauté du peuple. D'autres, au contraire, qui avaient toujours montré de l'hostilité pour les Juifs, comme les descendants d'Ammon, de Moab, n'y étaient jamais admis. Quant aux Amalécites, qui leur avait été particulièrement hostile, ne leur était lié à aucun degré de parenté, on devait à jamais les traiter en ennemis. De même, en effet, qu'un individu porte la peine de la faute qu'il a commise, pour qu'intimidé par ce spectacle, les autres cessent de mal faire, de même aussi une nation, une cité peut être punie à cause d'un péché, pour que les autres s'abstiennent de les imiter. Et donc on voit très bien la force de toutes ces lois, justement, pour préserver l'intégralité, l'intégrité du peuple hébreu. Donc j'ai recherché un petit peu toute une série de textes là dans la somme de saint Thomas d'Aquin. Je m'excuse, ces textes sont un petit peu séparés les uns des autres. Il n'y a pas beaucoup de suite dans mes textes, mais c'est parce que dans cette partie de la somme, saint Thomas couvre beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'exemples. C'est difficile de maintenir un lien entre tous ces exemples. Autre chose, donc en page 76, au milieu de la page, sur le polycopier, ceux qui avaient eu de nombreux enfants recevaient des témoignages particuliers de considération. L'évangile contient les enseignements tendant au mépris du monde, ce mépris qui rend l'homme apte à recevoir la grâce du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que ceux qui aiment le monde ne peuvent recevoir le Saint-Esprit. Eh bien, c'était un petit peu la même chose. N'admettez pas chez les Juifs, pour diriger la nation, donc pour être le canal des paroles du bon Dieu, des gens évidemment qui n'étaient pas du peuple juif. Autre paragraphe, donc troisième paragraphe avant la fin de la page 76 sur le polycopier, nul n'a jamais possédé la grâce du Saint-Esprit si ce n'est par la foi au Christ, explicite ou implicite. Donc, la grâce du Saint-Esprit venait dans les âmes des Hébreux, dans l'Ancien Testament, par la foi au Christ à venir, au Messie à venir. Donc si donc un homme qui a reçu la grâce de la Nouvelle Alliance vient à pécher, il mérite une peine plus sévère parce qu'il abuse des bienfaits plus grands, ne tire pas parti du secours qui lui est donné, la loi nouvelle et la loi de grâce. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, chrétiens, la loi nouvelle, nous avons beaucoup plus d'aide pour nous maintenir en état de grâce que les juifs. Et donc, si notre Seigneur Jésus-Christ était d'une certaine dureté avec les juifs prévaricateurs, pensons à ce que notre Seigneur Jésus-Christ va être obligé de faire pour juger des chrétiens qui sont la loi nouvelle, et qui, eux, ont reçu beaucoup plus, justement, pour rester en état de grâce, comme la confession, la communion et tous les sacrements. Donc il fallait donc que l'homme fût abandonné à lui-même dans l'état de la loi ancienne, ainsi tombant dans le péché, connaissant sa faiblesse, il reconnaîtrait qu'il a besoin de la grâce. C'est une des raisons pour laquelle le Seigneur va attendre avant d'envoyer le Messie. Il y avait, bien sûr, sous le régime de l'ancienne alliance, des gens qui possédaient la charité, qui étaient en état de grâce, et la grâce de l'Esprit Saint est aspirée avant... Qui possédait la charité, la grâce de l'Esprit Saint, et qui aspirait avant tout aux promesses spirituelles et éternelles en quoi il se rattachait à la loi nouvelle. Inversement, il existe sous la nouvelle alliance des hommes charnels, encore éloignés de la perfection de la loi nouvelle, pour les inciter aux œuvres vertueuses, la crainte du châtiment, et certaines promesses temporelles ont été nécessaires jusque sous la nouvelle alliance. Donc, les Juifs de l'Ancien Testament avaient beaucoup plus d'excuses que nous, parce que justement, ils n'avaient pas reçu tout ce que nous avons reçu. D'où la nécessité pour nous d'utiliser toutes les choses que le bon Dieu nous donne sous la loi nouvelle. Un Juif de l'Ancien Testament ne pouvait pas se confesser. Un Juif de l'Ancien Testament ne pouvait pas aller faire une adoration devant le Saint-Sacrement pour trouver les forces dont il avait besoin. Nous, on peut le faire, pas lui. Donc, attention à ces choses-là qui sont quand même extrêmement importantes. Voilà, c'est encore une fois, je vous rappelle ce que je vous demande pour pouvoir travailler vraiment avec plus d'efficacité. Donc, obligez-vous à relire le texte du Polycopier pendant la semaine qui suit le cours, et même si vous avez la possibilité, écoutez le cours deux fois. C'est plus facile pour se mettre tout ça dans l'esprit. Voilà, donc nous terminerons donc ces choses, ces lois du peuple juif la prochaine fois, et nous commencerons après la deuxième partie du traité sur les lois, justement, pour savoir si c'est la loi nouvelle, donc éduque-t-elle les hommes pour leurs actes intérieurs, et quelles sont les obligations des gens de la loi nouvelle qui suivent la loi nouvelle, à savoir nous, qui sont arrivés sur la terre, si vous voulez, après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous.